et de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Je les ai vus, j'ai tout.
Bonjour tout le monde, c'est Michel Mendes au micro, je suis avec Étienne Blondeau. Bonjour Étienne.
Bonjour.
C'est donc l'émission, vous avez compris, le grain de sable d'Attaque Québec. Attaque Québec, c'est l'association pour la transaction des transactions, pour l'association pour la transaction de la taxation et des transactions financières, pardon. Comme ça, les gens ont été attentifs, ils ont pu bien comprendre ce qu'est l'Attaque Québec. Quoi qu'il en soit, vous allez sur attaquequebec.org, vous allez tout savoir sur l'association. Étienne, cette semaine, on va parler de...
Police.
On va parler de police. On a commencé à en parler il y a 2 semaines.
C'est ça. Je vais faire un résumé de l'épisode précédent, mais est-ce qu'on passe en musique d'abord?
Oui. Mais je voulais juste que tu expliques aux auditeurs ce qu'on va faire aujourd'hui.
Oui,
grosso modo.
Absolument.
On va revenir un peu sur l'histoire, mais on va se pencher davantage.
C'est ça. En gros, ça va être un tour d'horizon des débats qui ont lieu dans la presse américaine, qui se questionnent sérieusement sur le rôle de la police dans la société.
Et on comprend souvent, avec tous les événements qui se produisent.
Des événements graves,
des gens, c'est ça exactement, des gens qui sont tués. On se demande pourquoi. Il y a vraiment un sérieux problème aux États-Unis. Alors, on va donc... on va regarder tout ça après la chanson qui suit, Sécurité de Petit Denis.
Mama oh mama, mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous déjà. Tu accroches ton chacoto, ils vont voler, tu déposes ta brosse à dents. Ils vont voler, tu déposes ton pirigeois, ça va, ciao. Mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous déjà. Là-bas à Trècheville, dans une cour commune, les habitants de là-bas ont reçu la visite des braqueurs, les braqueurs coagulés. Quand ils sont arrivés, ils disent oh les mecs, c'est lui qui bouge gentil ou c'est lui qui tire en bouge. Aujourd'hui on veut pas l'argent, on veut pas bijoux, on veut pas tuer, mais on veut toutes les go. Il y a une petite fille, elle dit pardon tonton, ma grand-mère qui est là, elle est beaucoup vieille, elle ne peut pas marcher, pardon ne la touchez pas. Qu'elle a attendu cela directement, elle est sortie. Elle dit papa, qui t'a demandé? Quand ils sont rentrés, ils ont dit en tout, tout le monde. Ce qui est dit. Il y a 20 ans, ton grand-père est décédé. Je n'ai plus de pointeur dans ce qui est dit. En tout, tout le monde. Parmi les filles, il y avait un traversi. Avec une perruque, maquillage, beaucoup de poils, on dirait crabe poilu. Mama oh mama, mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous déjà. Le braqueur l'a trimballé, arrivé dans la chambre où ça voulait commencer. Il était surpris d'être étonné d'être en face d'un garçon. Il voulait B.O. le traversi l'a pompé. Où dit en va, quand vous êtes rentré, j'ai dit en tout le monde, tant que tu vas me coucher aussi, sinon tu bouges pas. Ce qui est dit, en tout le monde.
Mama oh mama, mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous ja. Ça va Jobo, yeah, ça Jobo, yeah, ça va Jobo, yeah, ça Jobo. Ça va Jobo, ça Jobo, Raphaël, ça va Jobo, Monsieur Dubois, ça Jobo, Issa, ça va Jobo, ma petite Monia, ça Jobo, Monia, ça va Jobo, ça va Jobo, ça Jobo.
C'était la chanson « Sécurité » du chanteur Petit Denis. Bon, Étienne, on va revenir, je l'ai dit tantôt, on va revenir sur l'historique de la police. La police n'a pas toujours existé.
Non, c'est ça. Elle est apparue, en fait, en même temps que l'industrialisation des pays capitalistes, finalement.
C'est-à-dire dans les années?
En fait, ça a été dans une brève période. Toutes les forces de police sont... Bien, la majeure partie sont apparues entre 1825 et 1855. Donc, c'est quelques décennies après le début de l'industrialisation.
Qui s'occupait de la sécurité avant?
Avant, c'est ça qui est particulier. Lorsqu'on remonte très loin dans l'histoire, par exemple, dans l'Athènes classique, là, en Grèce, oui. Les citoyens n'étaient pas surveillés par des policiers. Il n'y avait pas de force de police qui pouvait comme... prendre, disons, l'initiative de questionner quelqu'un ou de le tabasser ou peu importe. C'est, en fait, les citoyens, peut-être la chose qui se rapproche le plus de la police, c'était des esclaves, et ça, c'est très particulier comme histoire, des esclaves qui servaient la démocratie d'Athènes et qui étaient là, dans la place publique, ce qui s'appelait l'agora, quand c'était l'heure d'aller à l'assemblée et de faire la démocratie directe et de débattre des lois.
C'est ironique, des esclaves qui s'occupaient de la démocratie, surveiller la démocratie.
C'est très particulier, mais le plus amusant, c'est ce qu'ils faisaient. C'était l'heure d'aller débattre en assemblée. Alors, eux, paraît-il, ils tendaient un long fil qui était couvert de pigments rouges. Et ils se déplaçaient au travers de la place publique. Comme ça, si quelqu'un était fainéant et n'avait pas le goût de participer à la démocratie, qui restait en plein milieu du chemin... Eux, ils le touchaient avec leurs cordes et tachaient ses vêtements. Comme ça, une fois que l'assemblée publique était finie, on pouvait remarquer que des gens étaient tachés de rouge. On pouvait voir que pour eux, qu'ils se croyaient trop bons pour participer à la démocratie et finalement, on se moquait d'eux. Donc, on peut peut-être dire que ceux qui sont aujourd'hui cyniques ou désintéressés de la politique seraient très malheureux à l'Athènes de l'époque. Ouais. Et aussi, ces esclaves-là servaient à finalement descendre les gens du podium lorsqu'ils étaient hués trop longtemps dans les assemblées. Alors, c'est très particulier. Moi, j'ai aussi jeté un coup d'œil rapidement à la Rome antique où est-ce que finalement, c'était... Ils faisaient surtout un travail de pompiers. C'était, oui, des surveillants qui patrouillaient Rome la nuit, mais c'était le plus souvent pour voir s'il n'y avait pas des feux qui se déclaraient ici et là.
Bref, c'est les citoyens eux-mêmes qui... Enfin, les gens eux-mêmes qui s'organisaient, c'est ce que je comprends.
Oui, le meilleur exemple, le plus clair, c'est au Moyen-Âge, surtout en France, lorsqu'ils se constituent des premières villes, si je peux appeler ça comme ça.
Oui, les premiers bourgs. Oui.
C'est ça, il y a certaines régions qui étaient autogérées. Ça s'appelait des communes. Mmh. Alors, tout le monde était d'un rang égal. Il n'existait pas quelqu'un qui a comme un rôle supérieur aux autres et qui a le droit de faire avec les autres tout ce qu'il veut finalement, ou de les questionner ou de les interrompre. Le monde faisait leur propre justice. Ils s'organisaient eux-mêmes. Et j'ai pas trouvé l'équivalent français au mot, mais ce que j'ai croisé dans les articles historiques, c'est une tradition qui s'appelle le hue and cry. Alors, admettons qu'on est sur la place du marché et que quelqu'un vole un pain, eh bien, si vous voyez ça, c'était de votre devoir, et vous en étiez très conscient, de pointer du doigt cette personne-là et de crier au voleur.
Ah bon?
Ça, c'était le hue and cry. Mmh. Et là, la personne qui vous attendait à côté devait regarder où vous pointez du doigt, et lui aussi pointer du doigt et crier au voleur. Et finalement, ça se transmettait comme ça.
Alors, le voleur se sauvait, mais tout le monde le pointait du doigt.
Ouais, ben le devoir, c'était pas juste de le repérer, mais c'est ça, c'était de le poursuivre.
Oui.
Alors, vous voyez,
et de l'arrêter, c'est
la justice, c'était que si un voleur, ben le monde prenait sur eux de l'attraper.
Alors, on parle du début du 19e siècle pour l'apparition de la police. Ça veut dire que les premiers Américains, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas vraiment de police.
C'était
des organisations civiles qui s'assuraient de la sécurité. C'est ce que je comprends.
Soit
et à partir du début du 19e siècle, là, les premiers corps policiers s'organisent, c'est ça?
Oui, ça se fait vraiment avec le début de la période industrielle parce que là, les quartiers commencent à être pleins. Plein de personnes qui sont des prolétaires, là, des travailleurs très pauvres. Alors là, il ne peut plus vraiment avoir une justice, une auto-justice où des personnes peuvent gérer de telles masses de personnes parce qu'avec le traitement qu'ils subissaient en usine, là, c'était des heures interminables, c'était très dur. Et bien, finalement, leur seul moyen d'avoir de la justice, c'était de faire, je ne sais même pas si on peut utiliser le mot grève, parce que c'était plus des émeutes qui n'étaient pas très planifiées. Alors, évidemment, les classes riches ont pris peur et ont voulu créer une nouvelle classe d'agents de l'État qui serait capable de s'occuper de ça. Parce qu'avant, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était appeler l'armée. Mais l'armée n'est pas formée pour gérer des grandes assemblées de citoyens, mais des émeutiers, finalement. Mm-hmm. Eux, ils sont formés, les soldats, pour souvent déshumaniser l'adversaire et le détruire. Alors, qu'est-ce qui se faisait alors, pour gérer des foules ou gérer des émeutes?
Ils tiraient dans la foule.
Ils tiraient ou fonçaient la baïonnette. Ouais. Alors, ce que ça faisait beaucoup de morts. C'était des événements terribles, des massacres. Et aussi, ça créait des martyrs qui, finalement, faisaient que les émeutiers revenaient plus nombreux et, finalement, détruisaient plus les quartiers encore. Alors, vraiment, toute la classe policière a été inventée pendant ces périodes de troubles-là pour avoir des agents de l'État qui, contrairement aux soldats, n'utiliseraient pas des armes létales. Mm-hmm. C'est que là qu'apparaît, je sais pas si vous avez l'image en tête, mais l'espèce de policier londonien là, qu'on l'imagine avec le haut chapeau, lui, dans toute sa tradition, là, c'est qu'il n'est pas armé, il n'a pas d'armes de poing, il a simplement sa matraque. Alors c'est comme ça qu'on gérait, si je peux dire, les émeutiers ou les syndicalistes. C'était pas avec des armes, avec des balles comme les soldats. On utilisait des armes non létales, finalement, pour ne pas créer de martyrs. C'est vraiment ça l'intention. Et le concept s'est répandu, s'est imposé finalement partout. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des événements. Moi, j'ai surtout lu l'histoire de New York. Il existait simplement une watch, là. Je ne sais pas trop quel mot français employer dans ce cas-ci, là. Mais des personnes que c'était pas vraiment leur job d'être policier.
En fait, des surveillants.
C'est ça, des surveillants à temps partiel, finalement. Il y avait d'autres occupations, d'autres emplois. C'est juste qu'ils étaient comme forcés à consacrer un certain temps pour surveiller la nuit ou le jour. Et le seul bénéfice qu'il y en avait, c'est que s'ils donnaient des amendes, ils percevaient un certain pourcentage sur chaque amende. Okay. Et c'était une espèce de responsabilité que tout le monde détestait. Et les riches se faisaient remplacer, payaient d'autres mondes pour dire « Faites mon service à ma place de surveillant. Ça me tente pas aujourd'hui. » Alors, finalement, vous comprenez que de rares surveillants comme ça n'ont pas trop le goût de faire un mur humain devant une émeute en colère.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, les plus riches individus à New York ont vite compris que le système ne marchait pas contre des grands mouvements revendicateurs de travailleurs qui, je le répète, avaient des conditions extrêmement difficiles en usine et faisaient moins des grèves que des émeutes sous l'effet de la colère, finalement.
Et là, on a senti le besoin d'organiser des corps policiers.
Oui.
C'est vraiment là qu'on peut parler de police au sens de corps policiers structurés, organisés pour faire face à toutes sortes de situations.
C'est ça. On a décidé à ce moment-là de professionnaliser la chose parce que moi, j'ai entendu parler d'un cas, je crois que c'était... ce qui a vraiment fait toute la différence, c'était à New York dans le temps du Nouvel An. Mm-hmm. 1828, tous les riches individus de New York étaient rassemblés à l'hôtel de ville. Ça, c'était sur Broadway pour fêter le Nouvel An. Mais en même temps, il y a eu une émeute qui a réussi à encercler l'hôtel de ville. Alors, les gens, on peut le comprendre, ont eu peur, ont pu se sauver en catimini de peine et de misère. Alors, déjà là, le lendemain, dans les journaux, tout le monde appelait à faut changer la situation, faut pacifier la situation. Mm-hmm. Alors, ça a pris quelques années seulement pour grossir les surveillants. On en engageait plus, ils faisaient ça à temps plein. On les entraînait mieux. Et en 1845, on peut parler vraiment d'une police moderne à New York.
Étienne, on va prendre une pause. On va écouter une chanson qui s'intitule « Les bourgeois ». On a parlé des bourgeois, qui étaient un peu ceux qui sont à l'origine de la création des corps policiers, parce qu'ils avaient besoin de protéger leurs propriétés. Mais une version par les Fatal Picards, ça n'a rien à voir avec les bourgeois de Jacques Brel. On écoute.
Quand je les ai vus, j'ai tout de suite compris que ce serait pas facile la vie. À chaque étape, ils étaient là pour me montrer du doigt. Oh, oh, oh. Que tu bosses au Maryland en team, ou bien à télé à chaque, tu trimes les 3-8 à l'usine, ou bien à Levallois, et ils sont là avec leur belle chemise là.
Mais qui ça?
Les bourgeois!
Ah, ça dénonce!
Ah, oh, tu me folle que je t'aime! Liberté pour trouver la force de me battre avec le comité contre ceux qui t'emprisonnent ou contre ceux qui te ligotent aux mains du grand capital, au nez de la justice sociale, contre ceux qui gardent jalousement les bénéfices d'une politique séculaire d'aliénation de la classe ouvrière!
Mais calme-toi, les bourgeois! T'as vu ce que tu lui as fait, toi? Salaud!
Cette année encore il pleuvra, à la fête de l'humain ce sera la faute des bourgeois. Les bourgeois le premier, mais c'est un dimanche qu'il tombera, ce sera la faute des bourgeois. Allez.
Et quand je regarde tes yeux, oui toi, toi la femme prolétaire, mais où est la poésie? Où sont les pieds, où sont les vers? Tu sais je t'aime, mais la poésie elle est volée hein.
Elle est bouffée par les bourgeois.
Cette année encore les pauvres y compteront leur salaire sur leurs doigts, ceux qui auront perdu leur baramine.
Oh, les îles, moi, ils n'ont qu'à calculer la tête. Ce que le patron a l'envoi, mais pour ça, pourquoi ils font ça? Cette année, encore il pleura. À la fête de l'humain, ce sera la faute des bourgeois. Le premier, mais c'est un dimanche qui tombera, ce sera la faute des bourgeois.
Toi, toi, Jean-Jacques, mais reste pas planté là, mais retourne à ton usine.
Oh, à la mine, allez pas bosser pour acheter la bouffe pour ton chat. Le schéma, il le donne pas. Les putains de bourgeois, allez.
Jean-Jacques.
Il est mort.
Oh mon Dieu, il s'est pris la main dans une machine à barbe à papa à la fête. Oh mon Dieu.
Il y a du sang partout, c'est atroce.
Attends, mais c'est pas lui, regarde.
Oh, c'est un enfant, ça. Oh. Ouf, oh, c'est bon.
Allez, Jean-Jacques, viens.
Allez, relève-toi, allez, viens. Viens, viens, on va prendre nos mobilettes et on va faire des tours dans Saint-Louis. Et les limousines des bourgeois, on les aura. Et quand on les tchabra, on leur fera bouffer les pissenlits par les debout, Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques, debout. Jean-Jacques, debout. Jean-Jacques.
T'es relou avec ça.
Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe, en fait. C'est année
encore il pleura. À la fête de l'humain, ce sera la faute des bourgeois. Des bourgeois le premier, mais c'est un dimanche qu'il tombera, ce sera la faute des bourgeois. Cette année, en tête des montres, il n'y aura pas Jean Ferrat, ce sera la faute des bourgeois. Il y a moins de porcs dans les RTA parce que maintenant les porcs, c'est les bourgeois et les bourgeois.
C'était la chanson « Les bourgeois » du groupe Les Fatal Picards. On reprend, et peut-être on peut résumer dans un premier temps, reprendre grosso modo ce qu'on vient de dire pour les auditeurs.
Ben, ce qu'il faut en retenir, c'est que les intellectuels présentement, ou ben, en fait la population en général aux États-Unis, se questionne sérieusement pour ce qui est du rôle de la police, parce que là-bas, on a tendance à croire que ce sont des serviteurs du public. Ils sont là pour protéger et servir le public.
Oui, mais en principe.
C'est ça, mais il y a eu des cas vraiment inquiétants d'individus, souvent des jeunes noirs finalement, qui ont été abattus dans des circonstances floues. Ou plus récemment, à New York, il y a un homme noir qui s'appelait Eric Garner qui a été immobilisé au sol alors qu'il n'était pas en train de commettre des crimes, il était tout simplement en train de circuler sur le trottoir finalement. La situation avait été filmée du début jusqu'à la fin et un policier l'a immobilisé et on entendait l'homme crier, dire souvent « j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer » et finalement il en est mort. Et le coroner lui-même disait que c'était un homicide. Alors vraiment, surtout avec des situations très floues où on comprend pas pourquoi des individus, et c'est souvent des membres de la minorité noire, sont arrêtés sur la place publique, questionnés, immobilisés s'ils sont du genre à répliquer ou à essayer de revendiquer leurs droits, finalement.
Tous les événements à Ferguson aussi.
C'est ça, des événements très graves. Alors, on comprend pourquoi les personnes aux États-Unis se demandent, mais quel est le rôle de la police? Est-ce qu'ils nous défendent vraiment? Alors, ce qu'il faut...
Mais au fond, juste peut-être une petite parenthèse.
Oui.
Bon, les corps policiers se sont structurés, organisés de plus en plus dans les villes à mesure que le 19e siècle, le 20e siècle se déroulait. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de téléphone intelligent pour filmer, photographier tout ce qui se passait. Est-ce que la situation a vraiment empiré? On peut se poser la question, en tout cas, parce que...
Ben, moi, si je... Ben, en fait, il y a beaucoup de
personnes...
Pour
les gens qui allaient dans le sud des États-Unis, entre autres, on disait de carrément se méfier de la police, c'est tout dire.
Oui, je comprends. Il y a des personnes qui célèbrent l'ère moderne où on est rendu parce que les caméras sont partout. Mais ça aide pas vraiment la situation parce que quand même que les policiers peuvent se savoir filmer, le cas que j'ai mentionné, Eric Garner, qui a finalement été étranglé, là, qui a suffoqué, lui, la situation a été filmée au complet, mais les policiers impliqués dans ce cas-là n'ont pas été condamnés. Alors, quand même que il semble que les preuves soient là, si finalement il n'y a pas de justice, il n'y a pas de condamnation, les policiers sont pas imputables. Donc, le pouvoir n'est toujours pas du côté des citoyens, quand même, qui peuvent brandir un cellulaire et filmer.
Oui, je veux juste dire que les situations sont davantage connues maintenant
qu'elles
l'étaient autrefois, parce qu'autrefois, il se passait plein de choses, mais personne ne le savait, au fond.
C'est vrai. Donc, vraiment, l'important, c'est de trouver une manière de, je crois, comprendre comment obtenir une police qui sert la population, finalement. Oui. Et si je parlais d'histoire, c'est parce que ceux qui réfléchissent sur ce sujet-là ont tendance à rappeler le fait que la police n'a pas été créée vraiment dans ce rôle-là de servir et obéir aux citoyens, quels qu'ils soient. Il a plus été créé pour finalement gérer des émeutiers. Il a
maintenir
été créé
le pouvoir
pour ça.
En place.
C'est ça. Et souvent, on n'est pas en situation d'émeute. Ils ont plus eu tendance à faire leur patrouille, mais toujours dans les mêmes quartiers.
Ouais.
Les quartiers les plus pauvres, ceux où vivaient les prolétaires, ou dans le cas de New York, les quartiers les plus pauvres, c'était ceux où il y avait les immigrants irlandais, souvent mêlés aux hommes noirs libres. Alors, finalement, ils surveillaient toujours les mêmes recoins pour harceler toujours les mêmes personnes, on dirait presque pour leur faire sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'ils devaient surtout pas s'organiser ou se syndicaliser ou vaquer leurs occupations à l'extérieur. Il y a des historiens, j'ai mis la vidéo, l'interview de cet historien-là sur le blog d'ailleurs.
Oui, peut-être rappeler l'adresse du blog, justement, on va en profiter.
Le grain de sable qc.wordpress.com.
Le grain de sable en un seul mot.
Oui, c'est ça. Alors, cet historien-là rappelait que, finalement, ils sont pas tant là pour prévenir des crimes sérieux ou protéger la vie des gens, parce qu'ils semblent être là pour surveiller ce qu'ils appellent le « petty crime », tu sais, des crimes de désordre public qui sont non-violents et, à la limite, j'oserais peut-être le mot sans grande importance. Ouais. Hein? On punit la prostitution, l'ébriété en public. On essaie de contrevenir le plus possible à la prostitution.
Ouais, je vais faire un lien ici parce que ça me revient. C'est fort intéressant avec une chronique que Robert Jasmin avait fait l'an passé sur les prisons aux États-Unis, où les prisons sont de plus en plus privatisées. Et Robert se demandait si parfois on faisait pas exprès pour remplir les prisons, pour rentabiliser les prisons. C'est quand même incroyable.
J'ai lu un article d'un activiste pour les droits des prisonniers. Je mettrai le lien sur le blog demain. Cet homme-là, lui, faisait remarquer, qu'on construisait des méga prisons et qu'elles étaient privatisées, donc profitables à des individus. Donc là, il ne reste plus qu'à...
Il faut trouver des gens pour les...
On est tenté à les remplir. Oui. Alors, c'est là qu'embarque la guerre contre la drogue, qui fait aussi partie, je dirais, des petty crimes, de ces crimes-là qui, finalement, ne sont peut-être pas dangereux pour le gros de la population, où on arrête massivement les...
Les gens qui fument un joint.
Qui fument la marijuana. Et ça va plus loin aussi, dès la période... l'industrialisation, les policiers avaient tendance à surveiller les rues et à empêcher les vendeurs publics, à empêcher la bouffe de rue, souvent parce que c'était ceux qui avaient des vraies boutiques dans les bâtiments ils voyaient ça comme de la concurrence.
Ouais,
c'était
ouais.
pas bon pour les affaires. Alors, on allait trouver l'officier et on lui disait...
Alors que le capitalisme est basé sur la concurrence.
Oui, c'est oui, c'est ça.
Ironique.
Alors, on disait, évacuez-nous ça. Alors, voilà, des personnes qui auraient peut-être pu faire quelques dollars en plus alors qu'ils n'étaient peut-être pas payés tant que ça, ne pouvaient pas vaquer leurs occupations. Et surtout, les aires publiques à New York, c'était peut-être un des rares moments pour socialiser. Hein. Il n'y avait pas vraiment de socialisation dans les chaînes de montage ou dans les appartements minuscules qui en temps de canicule est assez terrible. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais souvent l'été, les gens ne pouvaient pas dormir chez eux, sinon ils auraient complètement suffoqué. Il y avait souvent cette tradition-là de coucher... sous le ciel étoilé, des fois à Central Park, s'allonger des milliers de personnes côte à côte parce que les appartements étaient invivables.
Oui, ouais.
Alors voilà, les gens avaient besoin des aires publiques pour socialiser ou simplement vivre finalement, mais la police, et là je maintiens ça, dans les quartiers pauvres, était toujours là pour questionner les gens ou faire savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus.
Oui, il reste à peu près 3 minutes avant la pause publicitaire. Ça va pas très bien à New York, si j'ai bien compris. On
oui,
s'en
est parlé
avant l'émission. Oui.
Je vais résumer très rapidement parce que là, il y a des conflits. Parce que après tous ces événements-là, notamment avec Eric Garner qui a été suffoqué dont je vous parlais, il y a eu un tireur fou qui s'est attaqué à 2 policiers qui les a abattus.
Oui.
Ils étaient dans leur auto-patrouille. Alors depuis... le syndicat de la police se dit très fâché, mais vraiment en guerre contre le maire qui s'appelle De Blasio, un maire qu'on dit liberal, c'est-à-dire de gauche, là, plus grosso modo. Ils disent qu'il a le sang de ces 2 policiers-là sur ses mains parce qu'il était critique du rôle des policiers et de la violence policière, ce maire-là. Donc, il croit que par sa rhétorique, il aurait causé la mort des 2 policiers. Mmh. Alors, quand lui a donné un discours aux funérailles des 2 policiers qui ont été abattus, toutes les policiers de New York lui ont tourné le dos.
Ils lui ont tourné le dos, oui, j'ai vu l'image.
Et c'est inquiétant quand ils se disent en guerre, parce que en guerre contre qui? En guerre contre leur boss, le maire? En guerre contre le boss de leur boss, c'est-à-dire la population de New York?
Ouais.
C'est assez grave, parce que quand on se dit en guerre, c'est qu'il y a un ennemi, alors on a du mal à comprendre ça. Surtout que le maire précédent, son nom m'échappe, mais avant De Blasio, lui, il disait que le NYPD, c'était son armée, c'était comme son armée, sa petite armée personnelle. Donc, une rhétorique assez militaire pour ce qui est de cette police municipale-là, je dirais que c'est assez inquiétant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je me rappelle, il y a quelques années, c'est peut-être moins évident aujourd'hui, mais il y a quelques années, les policiers, généralement la Sûreté du Québec, les policiers de Montréal et autres, réussissaient assez facilement à négocier leurs augmentations de salaire avant les grandes négociations, curieusement.
Ouais, c'est assez particulier. Et là, je sais pas si j'ai le temps d'en toucher un mot là, mais très rapidement. C'est ça. Là, ils sont dans une espèce de grève de zèle. Là, la police syndiquée de New York, ils disent qu'ils ne feront que les arrestations nécessaires. Ça veut dire que là, ils ont réduit d'à peu près 90% le nombre de tickets et d'arrestations pour crimes mineurs. Alors là, les gens se disent, mais voyons, vous arrêtez que pour des raisons majeures, mais alors pourquoi vous arrêtiez autant de monde avant?
Effectivement.
Surtout qu'on voit pas de différence, on voit pas de chaos, on voit pas de problèmes ou de troubles dans les
rues.
Alors, que faisiez-vous avant?
Voilà. On va poursuivre là-dessus, sur cette lancée, après la pause publicitaire. À tout de suite.
Du 4 au 28 février, c'est la 16e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 25 journées de festivités. Concerts télématiques, théâtre d'objets, univers immersif, œuvres cinétiques, objets robotiques, théâtre technologique et dispositifs interactifs seront au rendez-vous. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 4 au 28 février, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer au 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoutantique.com.
Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 27 janvier au 7 février, Premier Acte accueille Saint-Agapi 1920 d'Olivier Normand. Entre performance, danse et théâtre, cette production multidisciplinaire explore la fuite du temps. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus.
Vous êtes de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, ckrl.qc.ca sur Internet au 89.1. Mais vous le savez déjà puisque vous écoutez présentement CKRL. Alors, donc, Étienne, on a un petit peu mis la table pour aller vers quelque chose qui vous inquiète beaucoup, c'est-à-dire la militarisation de la police. Non seulement la police intervient pour protéger le pouvoir en place, mais elle intervient de plus en plus fortement.
Oui, c'est ça, parce qu'elle a été créée, je disais au tout début, pour finalement, on voulait créer des agents de l'État qui étaient différents des soldats, qui n'allait pas faire des morts nombreuses parmi les émeutiers. Et pourtant, là, on se rapproche, on retourne vers ce rôle-là du soldat. Oui. L'entraînement est militaire. Souvent, leurs formations sont inspirées des formations militaires. Et surtout, le matériel militaire fait un retour auprès des polices. Finalement, tous les surplus militaires qui n'ont pas servi en Irak, en Afghanistan, ont tendance à aboutir du côté des casernes de police dans les villes américaines et même dans les campus universitaires américains. C'est assez incroyable. Mais moi, je me souviens des images souvent des endroits où des Occupy de certains campus américains, les mouvements Occupy, avaient été réprimés. On voyait les policiers, ils étaient armurés, tu sais, les espèces d'armures anti-émeute, de la tête aux pieds. Ouais. Et on parlait de police de campus. Hein. Alors, c'est particulièrement inquiétant. Surtout que, c'est ça, faut pas que les policiers qui, on le répète, sont censés être là pour servir et protéger, d'après leur slogan souvent aux États-Unis, faut pas qu'ils paraissent être une armée d'occupation, ouais, finalement.
Mais on peut comprendre les entreprises qui fabriquent les armes de vouloir les écouler. Alors, si elles ne les écoulent pas à l'extérieur, si elles ne les écoulent pas pendant la guerre en Irak, en Afghanistan, ou si elles les écoulent de moins en moins à l'extérieur, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi une source de revenus pour les entreprises.
C'est sûr qu'il n'y a pas de perte. Tout finit par se retrouver entre les mains des policiers si ça ne sert pas l'armée américaine. Ça les sert pas et c'est ça. Finalement, si je voulais parler de la militarisation, c'était aussi pour toucher au sujet des équipes qui sont de plus en plus utilisées, qui s'appellent les Special Weapon and Tactics.
Les SWAT.
Ouais, vous connaissez bien le terme SWAT. Ouais. On les voit souvent dans des films ou des choses comme ça. Sauf que dans la réalité, ils servent souvent moins à s'attaquer à des méchants comme dans les films, plutôt à mener cette guerre contre la drogue. Donc, c'est une autre spécialité américaine, à entrer en guerre contre un concept plus ou moins concret, là. Mais là, l'idée, c'est finalement d'utiliser des équipes de SWAT qui utilisent des... qui finalement font des entrées dans les maisons sans s'annoncer, sans cogner à la porte.
Ils ont un mandat?
Oui, en fait, c'est le no-knock warrant. Donc, c'est le mandat où on cogne pas à la porte. Okay. Sauf avec un bélier, évidemment. Ouais. Alors, c'est ça. On entre sans s'annoncer. Ça peut être la nuit ou le jour avec des équipes entières. Et là, vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes possèdent des armes. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils croient être attaqués par des bandits ou on sait pas quoi? Si on le réflexe de se pencher vers un pistolet caché sous l'oreiller, eh bien, finalement, ils sont abattus. Ça se termine dans le sang des interventions non annoncées comme ça. Et c'est ça, les chiffres sont inquiétants parce que, et là je parle des meilleures années, là. Des fois il y a 40 000 interventions du genre, des raids faites dans des maisons résidentielles partout aux États-Unis. J'ai vu que certaines années, dans les années 2000, des fois c'était 50 000 par année.
Alors, c'est beaucoup.
Ça dépasse le 120 interventions par jour. C'est assez inquiétant. Et une histoire qui a fait le tour de la presse, ça, fallait que je vous en parle, c'était un maire. Lui, c'est le maire d'une ville qui s'appelle Berwyn Heights, au Maryland. Un homme qui s'appelle Cheyenne Calvo. Alors lui, ce maire-là a reçu la SWAT chez lui parce qu'il y avait eu une erreur et croyait que sa maison était occupée par quelqu'un qui était relié au narcotrafic. Alors finalement, ils sont arrivés chez lui. Je pense que c'est son épouse qui faisait la cuisine qui s'est mise à crier quand elle a vu des policiers tout en équipement SWAT sur sa pelouse. Oui. Alors eux, ça a l'air que si quelqu'un crie dans une maison, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer et finalement de pointer le fusil vers les gens. Et supposément qu'ils étaient à la recherche de drogue dans leur résidence. Alors ils ont demandé où est-ce que c'est caché. Sans le contexte, ça peut être étrange qu'on se fait pointer une arme d'assaut.
Oui.
Ça a l'air aussi qu'ils ont attiré les deux chiens que possédaient ces gens-là et qu'une fois qu'ils étaient apportés, ils les ont abattus finalement à bout portant, les deux chiens.
Voilà.
Le maire, lui, était dans sa chambre en haut. Il est sorti, il était en sous-vêtements, il a levé les bras. Il a dit « Tirez pas, je suis en haut ». Finalement, ils se sont fait menotter, arrêter violemment. Et ils se sont fait interroger. Les personnes, toutes en armure SWAT, ont fouillé leur maison, sorti les tiroirs, les revirés à l'envers. Il y en a un qui croyait avoir trouvé une enveloppe d'argent de narcotrafic, mais il a été déçu quand c'était juste une enveloppe brune avec 60$ et que c'était écrit « vente de garage » dessus. Et c'est ça. Finalement, ils le croyaient fou parce que cet homme-là leur disait « Je suis une mère, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? » Alors, en fait, ça, c'était la police de comté qui avait même pas averti la police de la ville qu'ils allaient intervenir chez le maire, finalement. Alors, c'est un policier qui, lui, était vraiment un officier de police de la ville qui s'appelle Berwyn Heights, qui passait par là et qui a vu tout l'équipement militaire quasiment autour de la maison. Lui, ça, s'est demandé « Mais qu'est-ce qu'ils font chez mon maire? Je vais aller voir. » Et il a pu confirmer que non, c'était pas un cinglé, c'était vraiment le maire et que c'était pas un narcotrafiquant.
C'est anecdotique, mais ça indique quand même la direction que prend de plus en plus les forces policières aux États-Unis.
Ce maire-là a fait la tournée des médias pour dire « Voici ce qui m'est arrivé et finalement ce qui a tué mes deux chiens et qui a fait une peur bleue à toute ma famille. » Mais lui, il voulait pas insister sur son cas individuel. Hein. Il disait, l'important, c'est pas qu'un maire ait reçu une équipe de SWAT comme ça, ce qui est une bavure. Le problème, c'est le système. Le problème, c'est pas l'individu, surtout quelqu'un de puissant comme un maire qui, par bavure, ça s'adonne qu'on l'attaque chez lui. C'est que des personnes sont attaquées, comme je disais... 120 par jour aux États-Unis.
C'est
un système, ça roule sans arrêt. Tout ça, supposément, dans le combat de la drogue, parce que, et là, faut le dire, là, les forces de police reçoivent des subventions selon leurs statistiques, leur performance dans le combat de la drogue. C'est-à-dire qu'ils doivent percevoir des montants, percevoir de la drogue, faire des arrestations. Alors, ils préfèrent faire ça, finalement, que combattre les crimes et protéger les gens. Et
on parlait des prisons tantôt, c'est la même chose pour la lutte à la drogue. Eh ben,
plus que ça, s'ils font des saisies pour des interventions liées à la drogue, ils peuvent garder une portion de l'argent perçu, finalement, ou des biens perçus.
Parce qu'ils sont mal financés.
Ben, en fait, c'est une bonne manière. Finalement, c'est assez économique comme système. C'est lié à l'économie. On a des équipements qui valent cher.
On se croirait presque en Égypte. En Égypte, je ne sais pas si vous le savez, Étienne, mais l'armée égyptienne possède 40% de l'économie égyptienne.
Oui, j'en ai entendu parler. Dans le cas des États-Unis, c'est vraiment un système de subventions et surtout d'équipements extrêmement dangereux et militaires qui est donné pour une bouchée de pain. Finalement, on subventionne les forces de police pour être violentes et plutôt que répondre aux appels des citoyens, de prendre ces initiatives-là, de s'attaquer à des endroits qu'on croit être liés à la drogue.
Étienne, on va prendre une pause. On va écouter une chanson qui s'appelle « Que fait donc la police » de Claude Astier et on va revenir pour la suite.
Un corps flotte sur l'eau, pont des arts. Une femme en morceaux, rue Ballard. Avec un bras en trop, c'est bizarre. La tête dans un bocau, quel bobard. On menait à l'hosto Saint-Lazare. On lui a fendu la peau sur le billard. comme elle avait bu trop de Ricard, reviendra pas de sitôt rue Ballard. Que fait donc la police? On se demande, car pendant qu'il vous glisse des amendes, les assassins sévissent tous en bande de Cannes à Saint-Maurice à Ostende. Et ils boivent au goulot sans manière à la santé du co commissaire des lèvres et puis des crocs de Bavière, car ils sont tous accros à la bière. Un mec à Tarascon dans le Cantal, planté plein de chichons au Quintal, au milieu des melons du Bengale, en disant ça c'est bon pour le moral. Un type qui buvait trop de grenadine derrière les fourneaux de sa cuisine, fabriquait de la nitroglycérine pour faire sauter le dirlot de son usine. Que fait donc la police? On se demande, car pendant qu'il vous glisse des amendes, les assassins sévissent tous en bande de Cannes à Saint-Maurice à Ostende. Pendant ce temps, la police pure et dure contrôle avec délice et bavure les bronzes et les métis, insécure du métro Saint-Sulpice à Ségur. Un connard de Sciences Po politique qui sortait de Sup de Co, quel comique, disait dans le monde diplomatique que les Français étaient trop anarchiques. On a vu aux infos hystériques bavant dans le microscopique un implace Beauvau vomitique. C'est le roi des rois qu'au transgénique. Que fait donc la police? On se demande, car pendant qu'il vous glisse des amendes, les assassins sévissent tous en bande de Cannes à Saint-Maurice à Ostende. Et sa vigie pirate dans les gares, sa grouille de primates ovipares, des velus, des prognates, des bâtards, que même tante Agathe en a marre, que même tante Agathe en a marre.
C'était Claude Astier, que fait donc la police? Étienne, parlant de ce que fait la police, je crois qu'elle fait même des détentions de plus en plus à domicile.
Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que on mentionnait l'économie plus tôt, comme de quoi il y a un avantage économique à remplir les prisons, oui, à distribuer de l'équipement militaire.
Là, ça se met à arrêter les gens à domicile, c'est pas bon pour l'économie des prisons.
Ben c'est bon pour une autre économie, parce que c'est ça que j'ai découvert avec beaucoup de surprise, c'est les compagnies privées qui sont liées au fameux bracelet électronique. Vous savez, cette oui, idée de détention à domicile, c'est-à-dire plutôt que d'être en prison, vous restez chez vous, mais vous portez en permanence ce bracelet-là. Mm-hmm. Mais ce bracelet-là, il est privatisé aux États-Unis, finalement. Il existe des compagnies qui les entretiennent, qui les posent, et ça devient une vie assez désagréable, parce que c'est ça, d'abord, une bonne manière de se réintégrer après avoir fait de la prison. Souvent, on fait de la prison, ensuite on fait quelques années, admettons 2 années de détention chez soi.
Ouais.
Mais pour se réintégrer à la société, il faut trouver un emploi. Mais je pense que ça fait des discussions assez gênantes quand on arrive faire des entrevues de job et qu'on a un gros bracelet électronique à la cheville. Ça, je pense que c'est assez difficile de se trouver ou de maintenir un emploi comme ça. Alors finalement, ces personnes-là sont prises chez eux. Et plus que ça, la surveillance est constante. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on sait où vous êtes, précisément ce que vous faites. C'est ce qui est assez déstabilisant.
Et on fait ça avec les téléphones intelligents aussi.
Oui, de toute façon aussi.
Mais c'est pas le même contexte.
C'est ça, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a vraiment des compagnies privées qui profitent de ça, parce que à tout moment, Lorsque vous êtes détenu à domicile, des gens peuvent venir et sans mandat faire des recherches chez vous, fouiller vos affaires, voir si quelque chose de louche, selon leurs standards, selon leur initiative, quand ils veulent. Et ils peuvent faire des tests de drogue aussi, où est-ce que là, il y a toujours des personnes de compagnies privées, hein, c'est pas lié à l'État, qui sont là. Et pour être sûr que vous substituez pas votre urine par celle d'un autre, eh bien, pendant tout le processus, quelqu'un doit être penché et, ben, peut-être pas penché, mais doit regarder tout le processus où est-ce que vous donnez l'échantillon d'urine, ce qui est assez déstabilisant aussi. Et aussi pire que ça.
C'est humiliant, merci.
Ah oui, très. C'est ça, c'est humiliant. Finalement, votre vie n'existe plus. C'est que, ça paraît facile de dire au moins vous n'êtes pas en prison, mais plusieurs années à domicile à se faire visiter sans prévenir comme ça. Moi, j'ai vu le cas dans un article là, d'une femme qui s'était protégée d'un mari abusif en venant avec une arme à feu. Elle l'a pas atteint avec son fusil, mais finalement, un juge assez sévère a cru bon de quand même la condamner pour avoir tiré vers son mari. Elle a fait quelques mois de prison, puis 2 années de détention à domicile. Et là, ce fameux bracelet qui est privatisé, comme je disais, eh bien, les frais d'entretien, vous devez les payer à la compagnie.
Ah oui?
C'est-à-dire qu'elle est prise chez elle, qu'elle n'arrive pas à se trouver d'emploi, mais que ce bracelet-là lui coûte 105 $ par semaine, dollars américains, plus autres frais. Et là, c'est intéressant, les autres frais, parce que le journaliste avait fait la somme, et avait vu que pour ses 2 ans, passer à la maison avec un bracelet, ça ferait 16 000 $ pour 2 ans. Et c'est donc voilà, vous payez pour être emprisonné chez vous.
C'est incroyable.
Et c'est pour une compagnie privée, là, pour profit. Là.
Ouais.
Alors voilà, il y a 4 millions d'États-Unis au moment où on se parle.
4 millions, c'est énorme.
Qui sont détenus à domicile.
Donc c'est une industrie très payante.
Très payante. Et autre chose qui est payant, qui m'a surpris, en fait, ça devrait plus me surprendre, ouais. Mais ce que j'avais lu, c'était l'initiative... compagnies privées là, qui vont faire des programmes informatiques pour aider les polices. Ça, c'est le travail de police mené par des données, des algorithmes finalement qui prennent toutes les statistiques, quels crimes ont été commis, par qui, où, qui prennent des millions de données ou d'exemples, qui finalement essaient de dire à la police où est-ce qu'il y aura des crimes. Alors là, on est presque dans de la science-fiction. Il y a un groupe au Texas qui s'appelle Right on Crime. Vous comprenez peut-être le jeu de mots comme Right on Time, qui vise à promouvoir cette idée-là. Alors, et là, ce que les journalistes que je lisais disaient avec raison, c'est qu'est-ce qui va se produire si les arrestations sont souvent faites sur des minorités, par exemple, noires ou latinos. Ouais,
comme par hasard.
Ou dans les quartiers les plus pauvres. Moi, j'avais l'exemple, j'avais même la statistique, 80% des arrestations à New York, c'était des latinos,
juste
des noirs.
Juste être certaine de bien comprendre, Étienne, l'algorithme en question... aide les policiers à deviner où va avoir lieu un crime la prochaine fois. La police se rend sur les lieux, voit qu'il y a des gens qui ont l'air suspects, même s'ils sont absolument pas en train de commettre un crime, elle les arrête.
Ben, en fait, c'est plutôt de comprendre quel lieu, quel quartier, quel pâté de maison. On est plus dans le territoire ici.
Okay, okay.
Voilà, donc on détermine des points chauds, finalement.
Ah bon?
Des points chauds, mais je veux dire...
Déjà que la police met déjà l'emphase sur certains secteurs.
C'est ça.
Elle va la mettre encore davantage.
L'algorithme, lui, ne va que comprendre que finalement, les crimes seront commis par ceux qui ont été arrêtés depuis des décennies, c'est-à-dire les minorités latino et noires, finalement.
Oui.
Alors, et je vous
ça
parlais
pas
plutôt...
un algorithme, effectivement, pour savoir ça.
C'est ça, je vous parlais plutôt que dès les années 1800, dès les tout débuts de la police, ils faisaient déjà ça, patrouiller sans arrêt les quartiers pauvres et harceler, finalement, les travailleurs les plus démunis.
Ouais. Ce qui est à retenir de tout cela, c'est qu'il y a... on imagine que la police, c'est une force payée à même les fonds publics, donc les taxes que les gens paient, les impôts que les gens paient. Mais là, ce que je comprends, c'est que ce n'est aux États-Unis, en tout cas ici au Québec, même je pense de toute façon que la police de Montréal de plus en plus vend ses propres services à des entreprises privées. Mais ce que je comprends, c'est que la police de plus en plus s'autofinance et même va développer des secteurs d'activité sous la pression d'entreprises privées. On est loin là, de la police au service du public.
Dans le cas américain, c'est vraiment la guerre contre la drogue qui est à retenir. Il existe beaucoup de motifs économiques derrière leurs actions. Alors, ce n'est pas payant que d'écouter un citoyen qui vient vous voir, en tant vous, policier, pour vous dire que quelqu'un l'a tabassé l'autre soir. C'est plus payant de faire ces raids non annoncés qui souvent foirent et se font chez la mauvaise personne. Et souvent font des victimes, finalement. Alors voilà, c'est plus payant de participer à la guerre contre la drogue qui est fortement subventionnée par le niveau fédéral. Alors, je crois que je passerai plus un segment sur les solutions parce que...
Oui, on va passer au segment sur les solutions. Effectivement, on a un petit plus de temps. Je vais donc, avant qu'on passe aux solutions, faire écouter une très brève chanson de Jacques Higelin, La Java des chaussettes à clous. C'est une chanson qui avait d'abord été composée, indiquée par Boris Vian. On écoute ça.
Très mutine, toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la noire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous, à clous. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec l'orable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou bien les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des âmes gendarmes. Parure en même temps qu'arme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous, à clous. Très discrètes, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires. Qu'elles aident ceux du prétoire de leur poids et de leur sagesse, respectant toujours la cadence. Elles brisent joyeuse danse les tibias et la résistance des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous des juges si doux et les auxiliaires.
C'était les chaussettes à clous de Jacques Higelin. Étienne, on va donc conclure et essayer d'ouvrir vers des solutions, parce que jusqu'à présent, c'est pas très joyeux.
Oui. Ben, c'est ça le problème avec les politiques publiques en général, c'est lorsqu'on croit qu'elles peuvent tout faire, lorsqu'on qu'on accumule les tâches qu'elles doivent remplir, les objectifs à remplir, ça se peut qu'ils finalement, à trop s'éparpiller une politique publique, ça échoue sur tous les plans, sur tous les objectifs visés. Alors si le policier, on le charge de plein de choses, combattre les émeutes, surveiller les rues, être un agent de la paix qui s'assure que l'ordre se maintienne, écouter les gens, écouter leurs problèmes, essayer de réparer les torts. Vous voyez, lorsqu'on accumule les tâches chez un même individu, je pense qu'il y a une limite à l'entraînement qu'on peut faire à quelqu'un. Il faut peut-être mieux diviser le rôle, peut-être essayer de spécialiser, de trouver des alternatives. Et quand je dis le mot alternative, c'est pas du tout remplacer le policier, surtout pas, là. C'est peut-être plus trouver des personnes qui pourraient remplir un rôle complémentaire, peut-être. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est un article de la revue Rolling Stone qui proposait des rôles alternatifs qui méritaient d'être étudiés ou tentés. Certains le sont déjà.
Oui.
Alors je commence. Il parle, par exemple, d'équipes de médiation. Ça, c'est intéressant. C'est des intervenants qui sont pas armés et qui se promènent dans les quartiers et qui souvent sont d'ex-détenus. Alors, ils proviennent, ils ont vécu dans ces mêmes quartiers-là dans leur jeunesse. Ils ont suivi le parcours qui les a menés au crime, finalement, mm-hmm. une vie assez difficile, et ont fini en prison. Donc, ils savent ce que c'est, ils savent de quoi la prison a de l'air, ils savent de quoi la criminalité a de l'air. Alors, maintenant qu'ils sont réformés et qu'ils sont libérés, ils peuvent aller dans les quartiers et discuter avec les jeunes, faire de l'éducation et essayer de prévenir que d'autres personnes aient le même parcours difficile qu'eux.
Oui, ça me semble sensé, effectivement.
Alors, c'est ça, c'est une forme de prévention du crime. Il existe des groupes aux États-Unis qui commencent à faire ce travail-là. Il y en a un qui s'appelle Cure Violence, si vous voulez vous informer. Quelque chose aussi...
Le lien vers l'article, le lien aussi vers ce que vous mentionnez va être mis sur le blog?
Cet article précis-là est déjà sur le blog.
Donc, les gens peuvent se rendre sur le grain de sable, QC en un seul mot, .wordpress.com, et il y a déjà du matériel.
C'est ça. Donc, ça, c'est un article de Rolling Stone, je le rappelle. Ce qui est proposé aussi, mais on l'entend souvent dans le domaine de la marijuana, c'est décriminaliser. Ou au moins dépénaliser, donc cesser d'emmener les gens en prison pour des crimes mineurs. Sauf que là, la proposition, c'est pas seulement la marijuana, mais d'autres délits. Les amendes sont pas nécessaires et surtout pas les peines de prison. Pour des petits délits économiques, ça devrait peut-être être réservé pour les crimes violents. Ouais, et finalement, absolument. La prison devrait contenir peut-être les gens qui sont dangereux pour la société et pas plus. Il y a l'idée aussi de justice alternative. Ça, c'est par exemple des idées comme dans certaines communautés autochtones ou africaines qui ont plus tendance à faire des cercles de discussion lorsqu'un crime est commis. Donc, toute la communauté est là, essaie de comprendre comment réparer le tort, comment faire pour que le coupable s'excuse, que la victime considère que justice soit faite. Peut-être plus un dialogue que vraiment une cour de justice qui soit antagoniste, où est-ce qu'un avocat face à un autre avocat, un seul gagnant au final. Il y a peut-être des méthodes alternatives à étudier. Une cour communautaire, paraît-il, qui a été implémentée en 2002 à Philadelphie, qui essaie de faire ça pour voir un peu plus le dialogue, le combat, finalement, entre avocats. Alors, si j'y vais rapidement, une autre idée intéressante de cet article-là, c'est...
Oui, parce qu'il nous reste à peine une minute.
Oui, j'y vais très rapidement. C'est la démocratie directe dans chaque communauté, pour que chaque personne se sente impliquée dans sa communauté et sente qu'il y a un rôle à jouer. Ce serait de promouvoir la démocratie.
Est-ce qu'il pourrait diminuer la violence?
Il y a certains sociologues qui n'hésitent pas à le penser que dès que quelqu'un a une voix, finalement, il se sent important et peut-être a moins de chances d'aller dans le crime.
Étienne, on va devoir couper là. Mais les gens peuvent poursuivre de toute façon Merci beaucoup, Étienne. C'était fort intéressant. Les gens peuvent se rendre sur legraindesableqc.wordpress.com pour poursuivre leur réflexion sur le sujet. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Il y a les geeks contre-attaque qui suivent tout de suite après la pause publicitaire. Merci beaucoup d'être à l'écoute.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.
Oh my God, qu'on est rendu loin!
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui...
Bonjour, ici Frédéric Lizotte, blogueur et porte-parole à la Régie des rentes du Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est 5 étapes faciles. Parce que plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien un petit 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de la Régidérante du Québec.
Face à l'Ouest, face au vent.
Cette année, le Festival en chanson de Petite-Vallée m'a demandé d'être son passeur pour la prochaine édition qui se déroulera du 26 juin au 4 juillet. Je vous invite, vous autres, les créateurs de chansons, les chansonneurs, paroliers et compositeurs, à vous inscrire en allant visiter le site web du festival. Vous avez jusqu'au 13 mars pour faire ça. Bienvenue.
Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Le 12 février, Vitrine sur la Relève présente au Palais Montcalm une soirée hors série, Le Vœu d'Arline Thibault, un spectacle de conte qui s'attaque au folklore du voisin de palier. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus.
Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatiale, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatiale, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1.